200 000 personnes auraient défilé à Homs, le berceau de la contestation. La grève des agents de sûreté aéroportuaire en France, des retards sont à prévoir aujourd'hui à Roissy, mais c'est surtout l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry qui est touché par ce mouvement, avec aujourd'hui l'annulation de tous les vols jusqu'à 14h. Ensuite, un départ sur deux devrait être assuré. Le triple A, toujours du plomb dans l'aile, l'agence de notation Fitch l'a sorti hier d'une perspective négative, alors que jusqu'à présent elle le considérait comme stable. Le feuilleton du triple A fait même l'objet d'un sondage IFOP apparaître dans Sud-Ouest dimanche. On y apprend que 66% des Français estiment que la perte du triple A aurait des conséquences graves sur l'économie française. Reprise ce matin des opérations de pompage du fioul du cargo maltais échoué sur une plage du Morbihan après la tempête Joachim. Par ailleurs, le réseau ERDF promet un retour à la normale ce soir pour les clients privés d'électricité. Il y en avait encore 70 000 ce matin. Levée de l'alerte aux avalanches dans les Alpes après les fortes chutes de neige de ces derniers jours. Toutefois, Météo France met en garde contre le ski hors piste. Il est tombé en Savoie près de 2 mètres de neige en moins de 48 heures. Enfin football avec ce soir la 18e journée de Ligue 1 à suivre, notamment les matchs Marseille contre Lorient, Montpellier contre Toulouse, Brest contre Auxerre et Lyon contre Évian-Thonon. Bonne journée à tous.
Bonjour à toutes et à tous, oui, petit problème de micro, allez, on est en direct, hein, vous les avez vus. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Planète Sun, votre rendez-vous du samedi en direct entre 13h et 14h. Au menu du jour, un prénom Joachim, vous l'avez compris, hein, on parle météo ce samedi avec un retour à chaud sur cette tempête, on peut le dire, l'un des rares événements météo de cette année 2011, qui fut pour le moins calme. Pour nous en parler, vous nous apportez leur témoignage, nos invités Cyril Saber et Stanislas seront en studio et on les accueillera au cours de l'émission. D'autres témoins également seront là par téléphone. Une heure de direct donc consacrée à Tempête Joachim. C'est maintenant sur Sun. On va d'abord démarrer, vous savez, avec un peu de musique. Le vent l'emportera. Un titre de circonstance, Noir Désir, tout de suite dans Planète Sun. Bon week-end à tous.
les mortes, ceux qui peuvent frapper à ta porte. Infinité de destins, on en pose un, qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun fait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent les portera. Tout disparaîtra. Le vent les portera.
FM. Allez, retour au direct après ce premier titre de Noir Désir, Le Vent te portera. Vous l'avez compris, on parle météo aujourd'hui dans Planète Sun en compagnie de nos invités. Cyril, Stanislas et Saber sont en effet présents en direct en studio. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Merci d'être en direct. Cyril, météorologue averti déjà, webmaster du site www.meteolaflèche.com. Stanislas est là également. Bonjour Stanislas.
Bonjour.
Stanislas est également présent sur le site, lui, infoclimat.fr. On reparlera du site tout à l'heure, infoclimat.fr. Il est de Saint-Aignan-de-Grandlieu, c'est-à-dire au sud de Nantes, donc près de l'aéroport. Donc également passionné de météo. Enfin, Saber est également présent en studio cet après-midi. Saber, qui est de Nantes et qui s'occupe également du musée de la foudre. On en reparlera également tout à l'heure en fin d'émission. Et évidemment, nos trois invités ont des choses à dire sur la tempête Joachim, tempête qui nous a concerné. Rappelez-vous, c'était tout récent, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Saber, tiens, on va commencer avec vous. Vous l'avez ressenti comment, cette tempête ?
Bonjour. Eh bien, écoutez, nous sommes partis en fait déjà sur des trompes d'eau hein, à partir de Saint-Aignan-de-Grandlieu. Donc, c'est vrai que déjà c'était assez conséquent. Hein. C'est surtout les précipitations au départ, des bonnes rafales. Hein, et plus on arrivait vers la côte, et plus ça s'accentuait. Voilà.
D'accord. Donc, on va effectivement dans quelques minutes, hein, les auditeurs vont comprendre que vous êtes partis en quelque sorte chasser la tempête en Vendée. Mais pour vous, c'est juste comme ça. Une première impression, c'est une tempête qui était plutôt forte ou vous avez déjà vu des choses beaucoup plus impressionnantes ?
Ah, on a vu des choses beaucoup plus impressionnantes, mais c'est vrai que quand même c'était une tempête assez intéressante dans la durée surtout. Hein. On avait quand même, ça a été entre 6, 7, 8 heures hein, selon les régions, mais dans la durée, un vent moyen assez impressionnant. Alors certes, on n'a pas enregistré des rafales dantesques, mais le vent moyen était relativement important quand même.
D'accord. Vous, Stanislas, vous êtes situé au Sud-Loire. Est-ce que du côté du Sud-Loire, on a également ressenti cette tempête assez fortement ?
Alors au niveau du Sud-Loire, je ne peux pas dire, puisque je suis parti avec Saber et Cyril sur la côte vendéenne dans un premier temps. Donc au niveau du Sud-Loire, ça soufflait moins que sur la côte.
Moins que sur la côte, bien sûr, oui.
Voilà. Mais apparemment, d'après les rafales enregistrées à ma station, comme disait Saber, le vent moyen a été relativement important.
Voilà, parce que Stanislas également, on en parlera tout à l'heure, vous avez votre propre station météo. Donc on aura l'occasion de nous dire un petit peu ce qu'elle a relevé. Enfin, Cyril, vous êtes un habitué de la maison en quelque sorte, météorologue averti, spécialiste également des prévisions saisonnières, on en reparlera également. Allez, cette tempête, c'est quand même l'événement de l'année, même si ce n'était pas une tempête exceptionnelle. Hein.
Ce n'était pas une tempête exceptionnelle en soi, mais comme l'ont dit les deux autres auparavant, c'est que c'était une tempête qui était remarquable dans sa durée. Et pour retrouver une tempête de ce type, il faut remonter au moins à Xynthia en 2010.
Ouais, on verra justement tout à l'heure si on peut faire des comparaisons entre Xynthia, les tempêtes plus anciennes, et cette tempête Joachim. Je reviens vers vous, Cyril. Est-ce qu'on peut un petit peu recadrer les choses ? Cette tempête, elle était prévue depuis quand même un certain temps. Est-ce que tous les éléments étaient réunis déjà pour qu'il se passe quelque chose ?
Tous les éléments étaient réunis, parce qu'on avait un jet subtropical qui provenait directement des Açores et qui arrivait directement au niveau des côtes de la Manche.
Et donc alors un courant jet pour les auditeurs, c'est courant d'altitude,
ce sont des vents forts en altitude.
Vers 10 km à peu près.
Et il y avait un système dépressionnaire qui se trouvait dans ce coin-là. Et techniquement, de ce système, il y a la dépression Joachim. Et c'est en quelque sorte décroché pour se renforcer en arrivant sur les côtes de la Manche et aussi un peu plus dans l'intérieur des terres.
Donc on avait tous les éléments, tous les ingrédients réunis pour qu'il se passe quelque chose. Est-ce que tout ça s'est mis en phase vraiment optimale ou est-ce qu'on peut-être il y a un des éléments qui a permis de limiter en quelque sorte la puissance de cette tempête, Stanislas?
Oui, tout à fait. C'est vrai que cette tempête, les rafales dans les terres ont été comprises ont tourné autour de 100 km/h. Ont atteint 130, 140, voire 150 sur les côtes, mais cette tempête aurait pu prendre une ampleur un peu plus importante. Je dirais qu'on a eu la chance d'avoir une masse d'air relativement stable, surtout au niveau du secteur chaud. Donc si cette masse d'air était devenue instable, on aurait pu avoir des rafales beaucoup plus conséquentes. Puisqu'en altitude, à partir de 500 mètres d'altitude, nous avions des rafales, un vent qui soufflait à plus de 150 km/h.
Donc en clair, on a échappé au pire.
On a échappé au pire, tout à fait. Vraiment parce que la masse d'air est restée stable tout au long de la nuit.
Joachim, ça c'est un nom, c'est un prénom. Qui décide finalement de nommer en quelque sorte les dépressions ?
En fait, c'est un institut de prévision météorologique allemand qui a décidé d'attribuer des prénoms en fonction de l'arrivée de la formation d'une dépression. Donc les prénoms sont choisis par ordre alphabétique de manière aléatoire.
D'accord, donc ce sont les Allemands qui choisissent. On n'est pas prêt d'avoir une tempête Cyril, Stanislas ou Marcel?
Du moins pour l'instant, non.
D'accord. Donc on a vu une tempête quand même importante, des éléments qui étaient en place. 2011, c'était quand même une année où c'est pas passé grand-chose en termes de météo.
Oui, c'est même quasiment rien passé, mis à part l'orage du 22 août, on n'a pas eu...
Voilà, il y a eu ce fameux épisode, effectivement, on en avait déjà parlé.
Remarquable, proprement parlé.
Voilà, tout de même, quand même, on peut le dire, un été pluvieux, humide.
Humide, oui.
Un automne plutôt sec et chaud.
Un automne qu'on pourrait même dire estival, entre guillemets, parce qu'on a eu des températures de près de 3 degrés supérieures à la normale.
Oui, mais même d'ailleurs, selon Météo France, on a des températures assez exceptionnelles en ce mois de décembre. Est-ce que d'ailleurs ça peut expliquer peut-être la virulence de cette première tempête ?
Quand on a des périodes aussi calmes durant cette année, il y a une accumulation d'air chaud qui peut se faire au niveau de la France et même au niveau des côtes. Parce que si on voit les températures d'eau de mer, on peut voir qu'elles sont encore relativement très élevées pour la saison. Donc il suffit qu'il y ait un peu d'instabilité entre guillemets qui se fasse au niveau de l'océan, même dans l'intérieur des terres, et ça suffit pour engendrer ce type de dépression et les rafales de vent qui sont associées.
Eh bien justement, oui, cette tempête, on va voir comment elle a été vécue par nos invités dans quelques minutes. On va faire une première petite pause dans cette émission. On sera également avec Bruno par téléphone dans quelques instants, qui viendra lui nous dire un petit peu comment ça s'est passé du côté de la région parisienne. Bananarama, Venus, c'est le titre que je vous ai choisi dans ce Planet Sun spécial Joachim. Vous pouvez bien sûr réécouter après l'émission en podcast sur le site de la radio, le www.lesonunique.com.
Vous êtes au cœur de Planet Sun.
Minutes, on est en direct, vous le savez, aujourd'hui pour parler de la tempête Joachim, la fameuse tempête qui nous a intéressé durant la nuit de jeudi à vendredi. Pour ça, eh bien Stanislas, Saber et Cyril sont avec nous en studio. Donc c'était une tempête qui était relativement remarquable, on l'a dit. Mais c'est pour ça que nos trois camarades sont allés tout simplement la chasser entre guillemets en Vendée. Alors Saber, une chasse, ça se prépare, je présume, ça se fait pas à l'improviste. Si, là cette fois-ci c'était un petit peu improvisé.
Non. On savait déjà depuis une bonne semaine que les choses se mettaient tout doucement en place. Ensuite, il y avait des petits soucis au niveau des modèles, par rapport aux trajectoires, à la violence. Donc, pratiquement au dernier moment, c'est vrai qu'il y avait des grosses hésitations concernant la trajectoire. Mais en règle générale, c'est beaucoup d'improvisation. On cible un lieu et après, sur le lieu même, on avise plus ou moins. Alors, cette fois-ci, on est allé directement à Notre-Dame-de-Mont sur la côte vendéenne. Bon, là, le remblai, il était complètement recouvert par le sable, un petit peu comme on a pu voir des photos sur un faux climat là, de Pornichet. Ça soufflait énormément, c'est vrai que c'était assez impressionnant. On a pu relever avec l'anémomètre à main de Cyril des rafales à 107 km/h quand même, mais bon, c'est pas beaucoup, mais attention, c'est quand même à hauteur d'homme, donc on imagine bien si on était plus élevé à 10 mètres par exemple, on aurait pu enregistrer des choses plus intéressantes.
Une chasse, Stanislas, ça se fait en voiture. Enfin, bon, voilà quoi. Est-ce qu'il y a une montée d'adrénaline au fur et à mesure qu'on va s'approcher du cœur de la tempête, oui, ou est-ce qu'on y va serein?
Oui, tout à fait. Donc, bon, ça s'est fait en voiture, évidemment, hein, vu les conditions atmosphériques entre la pluie et le vent. Donc, en fait, nous sommes partis donc de Saint-Aignan. Donc, on a pris la direction.
Donc, au sud de Nantes.
Au sud de Nantes. Donc, on a pris la direction de Notre-Dame-de-Mont. Et ensuite, arrivé sur place, on a avisé ensemble comment allait se dérouler la soirée. Donc, on avait avec nos téléphones portables accès aux images satellites qui nous permettaient de nous déplacer ensuite en fonction de l'intensité des rafales et tout ça.
Voilà, grâce aux dernières technologies, hein, on peut comme ça chasser, mais toujours bien sûr avec la prudence qui s'impose.
Ah, évidemment. On n'allait pas dans des coins non plus trop dangereux, quoi.
Voilà, donc on reste dans des endroits raisonnables, on se met à l'abri puisque les éléments, la nature est plus forte que l'homme, on le sait, hein. Et de toute façon, c'est toujours elle qui gagne en quelque sorte à la fin. Et alors, donc, quel est l'intérêt finalement de faire ces chasses, Stanislas, si ce n'est peut-être de faire de jolies photos?
Alors bon, de jolies photos, et puis pour nous qui sommes passionnés, c'est une sorte d'adrénaline que l'on ressent. C'est vrai que sentir le vent, l'entendre, en tant que passionné de la météo, c'est ce qui nous intéresse le plus, quoi.
Mmh. Cyril, vous l'avez vécu comment cette chasse en Vendée, cette chasse à Joachim?
En fait, je l'ai vécu avec Stanislas et Saber. Et en fait, je l'ai vécu en faisant des observations sur le terrain, c'est-à-dire avec un anémomètre à main spécialement créé pour enregistrer les plus fortes rafales de vent.
Mmh.
Et bon, j'ai réussi à mesurer jusqu'à, comme disait Saber, jusqu'à 107 km/h, ce qui n'est pas rien à 2 mètres de haut.
Oui,
sachant que les valeurs relevées par Météo France, les relevées dites normalisées, ils se font à 10 mètres de haut. Donc,
voilà.
mis à part emmener un mât démonté et qu'on remonte, bon, c'était un peu. Mis à part emmener ça, bon, c'était.
Voilà, mais cette valeur de 107 km/h reflète bien finalement quand même la puissance de cette tempête.
Bien, oui, en effet, oui.
Pour la prise de photos, ça doit pas être très facile quand même.
Bon, disons que j'ai essayé de me mettre à l'abri derrière soit une cabane, enfin une sorte de cabane là, qui est sur les plages là, et pour prendre en photo, même des vidéos, hein, qui sont d'ailleurs disponibles sur les supports internet.
Et donc disons que sur InfoClimat ou sur le forum, hein, www.infoclimat.fr, on le rappelle.
Donc il s'agissait surtout de se mettre à l'abri du vent, mais aussi de la pluie et aussi du sable, parce que le sable, mon anémomètre, il en a pas mal emmagasiné.
Et puis les appareils photo et le sable et les embruns d'ailleurs ne font pas forcément bon ménage. Stanislas, vous avez votre propre station météo, donc j'imagine que qu'elle a fonctionné à plein régime là, au cours de cette tempête. Est-ce que vous avez relevé des valeurs, relativement importantes?
Alors au niveau des valeurs que j'ai relevées, c'est principalement entre 80 et 90 km/h en termes de rafales. Par contre, le vent moyen a continuellement été entre 50 et 60 km/h au niveau du vent moyen. Donc c'est surtout ça qui a caractérisé cette tempête. C'est pas les rafales proprement parlées, c'est surtout le vent moyen qui a soufflé toute la nuit comme ça.
D'accord, donc beaucoup de vent, pas forcément très fort, mais en continu pendant une longue durée.
Pas de puissante rafale, mais un vent continu.
D'accord, et en termes de précipitation, parce qu'on a vu, il a beaucoup plu aussi durant la nuit.
Alors ça, par contre, en termes de précipitation, je dirais que c'est presque l'élément le plus marquant de cette tempête en ce qui concerne ma station, puisque j'ai relevé 37 mm sur les 24 dernières heures. Donc les 24 heures qui ont constitué cette tempête. Donc 37 mm, c'est relativement important et ça porte un cumul à 140 mm pour cette mi-décembre.
Ouais, ce qui fait du bien d'ailleurs pour les nappes phréatiques, on ne le rappellera jamais assez, on est en déficit pluviométrique. Vous qui êtes situé à Saint-Aignan-de-Grandlieu, donc c'est pas loin de l'aéroport de Nantes, évidemment la tentation est grande de comparer avec les valeurs officielles entre guillemets de Météo France. Est-ce qu'il y a des différences,
hein? Oui, il y a des différences. Bon, c'est-à-dire que Météo France, leur anémomètre est situé dans une zone complètement dégagée de tout obstacle et à une hauteur de 10 mètres de haut. Donc moi, ma station étant située sur le toit, y a des maisons environnantes, des arbres, des poteaux. Donc forcément, je n'ai pas des valeurs aussi puissantes que Météo France puisse relever.
Voilà, on le rappelle d'ailleurs, hein, on n'a pas battu le record pour cette tempête qui était de 100, au record officiel, hein, parce qu'après il y a d'autres records qui existent mais qui ne sont pas officieux. Ce sont ceux, par exemple, du pont de Cheviré. Mais là, le record officiel en 1990 de 133 km/h n'est pas tombé cette fois-ci.
Non, tout à fait, non, il est pas tombé.
On a vraiment du mal, excusez-moi, à battre ce record, hein, finalement. Ouais. On n'a pas des grosses rafales sur Nantes, hein, quand on regarde bien.
C'est peut-être une bonne chose, quand même, quelque part. Faut mieux pas trop le battre, quand même.
En l'occurrence, au cours de cette tempête, on a enregistré 94 km/h à Nantes Atlantique.
Voilà, 94. Oui, justement, on va en parler des valeurs qu'on a relevées au cours de cette tempête avec vous, Cyril. Donc, vous l'avez dit, 94 km/h à Nantes Atlantique, sur la côte et notamment en embouchure de la Loire. C'était quand même plus fort.
Bah, par exemple, à la pointe de chez Moulin, on enregistrait 156 km/h. Et donc, il faut savoir que, que la station elle est située sur un sémaphore et qu'à proximité, il y a une petite falaise. Donc, à ce titre, il y a comme un effet Venturi, c'est-à-dire que l'air est considérablement accéléré dans cette partie. De la région.
D'accord, donc il faut relativiser un petit peu cette valeur. D'autres choses à signaler ?
Sinon, on a enregistré 141 km/h sur l'île de Ré. Il y avait aussi à Saint-Nazaire, on avait 115 km/h, ainsi qu'à La Roche-sur-Yon. Et sinon, après, les valeurs elles se trouvent dans Morbihan, à Lorient, on avait 121 km/h, 126 à Vannes. Et sur le Finistère, on avait 133 km/h à la pointe du Raz.
Ouais, 133 km/h, c'est pas mal, effectivement, aussi. Donc, on le voit, une tempête classique d'hiver, pas exceptionnelle, mais assez forte quand même. Donc, on n'était pas habitués à ça. On verra dans quelques minutes s'il y a d'autres tempêtes prévues. Et puis, qu'est-ce qui nous attend ? Tiens, au cours des prochains jours, pourquoi pas pour le Noël et le Nouvel An. Et puis, on y verra un petit peu plus loin, bien sûr. Pour le mois de janvier, on parlera également, peut-être pourquoi pas, de l'influence du soleil sur la météo en compagnie de Cyril. Et puis, on parlera du musée de la foudre avec Saber, puisqu'il s'occupe de ce musée qui se trouve dans le Cantal. Et on reviendra avec Stanislas sur le forum infoclimat.fr. Un peu de musique, 2011, Da Silva, les stations balnéaires. Et on revient dans quelques minutes, on continue à parler de Joachim.
Planète Sun, en direct jusqu'à 14h.
Tu penses que je suis étanche, mais tu penses mal. Ma belle, j'habite au milieu d'une autoroute. Je ne connais pas les airs de repos. Ici c'est juste des phares plein la gueule. Ébloui, ébloui, je me farde pour sortir. Je souris, le cœur lourd, je respire mal. Je cours, après qui, après quoi? Ne m'attendez pas, ne m'attendez plus. Je ne rentrerai pas même à des heures. M'a confondu avec un autre, je crois. Moi je tire des traits et je porte ma croix. Je crache de la fumée, je boue, je brûle, je cloue les durs et je fonds dans le bitume. Ne m'attendez pas, ne m'attendez plus. Je ne rentrerai pas même à des heures. Que je suis étanche, mais tu penses mal. Ma belle, tu penses que je danse à chaque pas chassé. Mais je tangue et je tangue les bottes chaussées. Je glisse certains soirs jusqu'à la nausée. Ne m'attendez pas, ne m'attendez plus. Je ne rentrerai pas même à des heures indues. Tout me traverse, tout me transperce. Je ne rentre. Au milieu d'une autoroute, je ne connais pas les airs, les stations de repos, les stations balnéaires. Tout me traverse, tout me transperce.
93 FM.
Allez, retour au direct. Vous le savez, on parle aujourd'hui de la tempête Joachim avec nos invités Cyril, Stanislas et Saber qui sont en studio donc pour passionnés de météo. Et ils viennent effectivement nous raconter un petit peu ce qu'ils ont vécu au cours de cette nuit. J'allais dire nuit de folie, peut-être pas, il ne faut pas exagérer, mais de cette nuit agitée, on va dire. Je rappelle également que vous pouvez donc nous suivre en direct sur le www.lesonunique.com partout en France ou dans le monde et sur le 93 FM en, disons, en Loire-Atlantique, dans les Pays de la Loire même un petit peu. Hein. Vous pouvez réagir sur le blog de l'émission le www.lesonunique.com. Vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook de Planète Sun si vous souhaitez apporter des précisions, des témoignages. Cette tempête, est-ce qu'on peut la comparer, Cyril, avec celle de 99 ou Xynthia ?
Non, pas du tout, hein, parce que même en termes de dégâts, bon, certes, lorsqu'on est revenu en Loire-Atlantique le petit matin, on a croisé plusieurs arbres couchés à terre. Donc, ce qui traduisait quand même une certaine violence du phénomène. Mais comparé à Xynthia et surtout à Lothar en 99, c'était bien plusieurs crans en dessous.
D'accord. Oui, Stanislas, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, par rapport à... Parce que bon, il y a beaucoup de comparaisons faites par rapport à ces tempêtes, Xynthia, Lothar et Martin, donc beaucoup de comparaisons. Là, on avait quand même pas mal de différences, notamment le jet d'altitude, ce fameux courant situé à 10 000 mètres d'altitude, mm-hmm. qui, en 1999, soufflait à plus de 500 km/h, hein, même je crois 547 km/h, ça a été le record. En ce qui concerne la tempête Joachim, ce courant de jet était largement inférieur.
Alors, la tempête Joachim, il y a quelqu'un d'autre qui l'a vécu en direct et il est avec nous par téléphone, c'est Bruno. Salut Bruno.
Bonjour Marcel, bonjour à tous.
Alors Bruno, vous êtes situé en région parisienne, donc la tempête, vous l'avez vu venir, entre guillemets. Vous l'avez vu commencer à s'abattre dans l'ouest et surtout, vous l'avez vu surtout du côté de la région parisienne.
Ouais, alors en fait, moi, si vous voulez, j'ai quitté la région parisienne en début de nuit pour me rendre du côté d'Auxerre. Donc si vous voulez, j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé en région parisienne. Je sais que ça a beaucoup soufflé entre 7h et 8h. Sur ma station météo, j'ai par exemple relevé 85 km par heure. Alors c'est pas tout à fait juste, puisque en fait ça a quand même atteint autour de 95 à 100 km par heure en région parisienne. Moi, je me suis plutôt dirigé du côté d'Auxerre, où le coup de vent a véritablement commencé en seconde partie de nuit. Et effectivement, il y a eu des rafales autour de 115 km par heure du côté de la région d'Auxerre.
Ouais, donc ça a bien soufflé, hein, Bruno. Donc vous êtes webmaster du site www.meteo-ouest.fr. Donc vous êtes situé basé en région parisienne, mais vous gérez un petit peu là aussi tout ce qui se passe dans le Grand Ouest. Une tempête donc que vous aviez prévue aussi depuis un petit moment.
Oui, effectivement, c'est une tempête que l'on suivait déjà depuis une semaine. À l'origine, cette tempête a été plutôt prévue pour la région, enfin pour les Anglais, si vous voulez. Et petit à petit, les modèles ont eu tendance à donner une trajectoire un petit peu plus sud de la dépression. Ça s'est avéré notamment le week-end donc précédent la tempête. Effectivement, avec Météo West et également notre radio partenaire, et puis eh bien on a fait des communiqués en interne en prévenant effectivement du danger potentiel de cette tempête. Et puis effectivement, il s'est avéré que la tempête a pris une trajectoire sud. On s'en est rendu compte notamment en tout début de semaine. Et puis effectivement, petit à petit, on a suivi la tempête et elle concernait donc plus ou moins nos régions et finalement pour concerner essentiellement l'ouest de la France et notamment la Vendée.
Voilà, donc merci hein, Bruno d'être passé nous voir en direct donc de la région parisienne pour donner un petit peu votre ressenti par rapport à cette tempête. Alors, des tempêtes, on en a eu une. Est-ce qu'on en aura d'autres, Cyril ?
À l'origine, déjà ce mois de décembre, il était très prolifique en termes de passage de perturbations et surtout de cumuls en précipitations, ce qui n'était pas forcément prévu de cette manière. Par contre, pour les mois à venir, officiellement, il devrait y avoir des conditions beaucoup plus anticycloniques. Et il s'avère que bon, cette année, la prévision saisonnière, elle est un peu, pas du plomb dans l'aile, mais il y a pas mal de difficultés.
Voilà, on va en reparler dans quelques instants. Juste là, comme ça, allez, une petite idée, un petit tour de table rapide. Noël au balcon ou Noël au tison ? Saber ?
Au balcon.
Au balcon. Cyril ?
Au balcon aussi. Je
pense. Au balcon. Et Stanislas ?
Je dirais la même chose, au balcon. Pardon.
D'accord, on est tous d'accord. Ce sera un Noël au balcon, mais c'est vrai, il ne fera pas forcément très beau non plus. Hein.
Enfin, quand on dit au balcon, ce sera peut-être aussi avec des moufles. Hein. On ne sait jamais. Hein.
Ah, bah non, si c'est au balcon, c'est en t-shirt. Hein. Par contre, avec le parapluie, peut-être. Ça, oui, c'est possible. Donc, pas de grosses tempêtes dans les jours à venir. Hein. On a quand même le souvenir de 99 où il y avait eu deux tempêtes à suivre. On se dit, tiens, il y en aura peut-être une deuxième. Non, là, cette fois-ci, on est tranquille pour un petit moment. Donc on a dit hein, au mois de janvier pour l'instant c'est un petit peu tôt peut-être pour voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on a quand même une idée aller un petit peu sur le mois de janvier juste à, comme ça pour aller un petit peu au-delà de Noël sur ce que donnent les prévisions saisonnières?
En l'occurrence la première quinzaine elle devait être prévue relativement froide pour la saison, donc il s'avère que dans la prochaine mise à jour je mettrai probablement de la douceur hein, parce que même les paramètres liés au soleil ils ont changé en termes des prévisions, c'est-à-dire que ce ne sont plus les mêmes valeurs qui sont prévues maintenant. Là, donc même au niveau du soleil, il y a pas mal d'incertitudes encore. Donc en l'occurrence, le mois de janvier sera probablement pas aussi froid que je le pensais dans un premier temps.
D'accord, donc un petit peu dans la continuité de décembre peut-être ?
Peut-être, oui.
D'accord. Les Stanislas, puisque vous êtes une station météo, donc où est-ce qu'on peut d'ailleurs retrouver les données en direct de la station de Saint-Aignan ?
Alors pour l'instant, les données ne sont pas en direct sur Internet. Pour l'instant, je les ai uniquement chez moi. Mais ça devrait changer d'ici peu, puisqu'il est prévu que j'ouvre une page Internet ou un site Internet avec dessus donc, toutes mes données qui seront diffusées gratuitement.
Toutes les données diffusées gratuitement. Et puis bien sûr, ces données, vous les donnez régulièrement sur le site infoclimat.fr et sur le forum sur lequel vous pouvez vous rendre et trouver une multitude d'informations. On va continuer à parler avec nos invités de météo dans quelques minutes, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, eh bien, c'est le thème de cette émission exceptionnelle de Planète Sun. Sachez que la semaine prochaine, on parlera de Noël et du Nouvel An, c'est un petit peu d'actualité aussi. Et que dans deux semaines, on fera une deuxième émission sur les épices. Vous savez, j'en ai fait déjà une la semaine dernière, et bien on continuera à parler des épices en début du mois de janvier. Tout de suite, encore un titre de 2011, Lisa Hannigan, Knotts, c'est dans Planète Sun. On se retrouve dans quelques minutes et on continue à parler de météo.
It was early in the morning, we were sitting on the stoop. A wheel away of starling, and I thought that I would too. Oh.
Oh bah ça suffit maintenant, c'est salade de nuit.
Ouais c'est de la bombe bébé.
Ouais c'est de la bombe lacrymogène. Oh vous allez pleurer de rire.
Oui enfin c'est formidable.
Salade de nuit du 18 octobre au 31 décembre, du mardi au samedi à 20h30 sur la scène du théâtre de Poche-Gralin. Info et réservation 02 40 47 34 44 ou sur notre site internet www.théâtredepoche.fr.
Allez, retour au direct. Vous le savez, aujourd'hui, on parle de météo en compagnie de nos invités. C'est un Planète Sun spécial Tempête Joachim, mais pas seulement, hein, puisqu'on parle aussi d'autres choses, hein, puisque nos invités sont passionnés de météo. Alors, je vais leur demander de présenter un petit peu ce qu'ils font. À commencer donc par Saber. Saber, donc, vous êtes passionné par les tempêtes, on l'a bien compris hein, au cours de cette interview, mais vous occupez aussi, et là c'est plus étonnant, du musée de la foudre. Alors présentez-nous un petit peu le musée de la foudre.
Alors le musée de la foudre, donc, il a été créé par Alex Armand, le fameux chasseur d'orage, donc il se situe dans le Cantal à Marcenat. Donc dans ce musée en fait il expose hein, des photographies d'Alex Armand, des objets foudroyés et on apprend aussi comment se forme un nuage orageux, les impacts de l'éclair, de la foudre, etc. Enfin c'est assez condensé avec aussi un film d'Alex Armand et de sa femme, hein, où on peut voir justement les plus forts orages qu'il a pu observer. Voilà.
Donc le musée de la foudre se trouve dans le Cantal.
Oui, dans le Cantal à Marcenat, dans le Nord Cantal, hein, presque en limite depuis Dôme.
D'accord.
Il est ouvert en fait hein, de manière saisonnière du 1er avril au 30 septembre. Et j'en suis l'animateur, donc je pourrais vous recevoir là-bas, vous accueillir avec grand plaisir, avec des visites guidées. Et voilà.
D'accord, donc bah, on ira effectivement avec plaisir. Est-ce qu'on peut quand même, pour se faire une petite idée, le voir, est-ce qu'il y a un site en fait correspondant?
Oui, alors il y a plusieurs sites, alors si vous voulez avoir pour les horaires, etc., vous pouvez aller sur Facebook, hein, vous googlisez Facebook Musée de la Foudre. Il y a un site sur Musée de la Foudre aussi, ou bien... le blog Zoom d'Alex Armand, blogzoom@alexarmand.com.
Et là, on a toutes les informations sur, sur ce musée ouais. De la foudre. Cyril, www.météolaflèche.com, site mondialement connu maintenant pour les prévisions météorologiques. Pas que des prévisions, il y a tout un tas de choses. Il y a des cours, il y a des observations.
Il y a des cours, il y a des...
C'est un vrai portail, en fait.
Oui, c'est un vrai portable. Hein. Portail. Il y a des cours à commenter, des schémas explicatifs, des analyses, des prévisions, puis aussi le ressenti au niveau des chasses.
Par exemple, vidéos, les photos des chasses, on va parler d'infoclimat dans quelques minutes, mais les photos des chasses, de la chasse de la tempête Joachim en Vendée sont déjà disponibles sur le site.
Elles sont déjà disponibles dans un dossier que je mettrai un lien vers la page d'accueil.
Ah mais ça va vous obliger à faire un dossier prévention, ça, pour les gens qui voudraient faire comme vous.
Prévention, c'est un peu trop tard maintenant, parce que la tempête est passée, mais c'est pour mémoriser le phénomène pour ensuite anticiper d'autres tempêtes à venir, entre guillemets. C'est-à-dire que une fois que s'il y a d'autres tempêtes qui arrivent, on dira voilà ce que j'ai fait à telle ou telle tempête, comment je l'ai ressenti, quelles ont été les conséquences de telle tempête en fonction de telle situation météo. Donc c'est un peu comme une sorte d'archive pour mieux anticiper
les prochaines tempêtes.
Ouais.
Toujours. Et puis donc on en retrouve aussi vos fameuses prévisions saisonnières.
Ouais.
Toujours à quelle échéance?
Elles vont jusqu'à 6 mois.
6 mois. Et donc là, pour les prochains 6 mois, là, puisqu'on en est, on est dessus là.
Déjà pour la suite de l'hiver, normalement, elle est censée être beaucoup plus froide que ce qu'on a actuellement. Mais il s'avère que ce soit au niveau du soleil ou au niveau du modèle saisonnier, il reste encore une grande marge d'incertitude. En l'occurrence, pour le printemps, ça a l'air paradoxalement de s'éclaircir un peu mieux, sans vouloir faire de jeu de mots. Mais en l'occurrence, il pourrait y avoir un temps beaucoup plus sec et plus chaud, un peu comme cette année, en printemps 2011, qui serait un peu la copie conforme du printemps 2012, enfin plutôt l'inverse, quoi, le printemps 2012, la copie conforme du printemps 2011.
D'accord, eh ben, on découvrira tout ça au fil du temps. Stanislas, vous intervenez sur le forum Infoclimat. Sur ce forum, on peut retrouver aussi plein d'informations, un suivi en live évidemment quand il y a un événement météo, mais pas seulement puisqu'on y a aussi beaucoup de rubriques.
Oui, tout à fait. Donc le forum d'Infoclimat est constitué donc de différentes rubriques. Donc il y a des rubriques donc concernant le suivi du temps. Donc ça peut être le suivi des tempêtes, le suivi du froid, suivi de la neige. Il y a également des rubriques de prévision à court terme ainsi qu'à moyen terme et d'autres rubriques plus conviviales, notamment des rubriques la rubrique rencontre qui permet donc de créer des rencontres régionales ou nationales avec différents passionnés en France.
Et il y a déjà eu des rencontres dans nos régions, hein, dernièrement.
Tout à fait, oui. Oui, il y a eu une rencontre il y a 3 semaines donc, entre différents passionnés, hein, vendéens, de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. Donc on se regroupe, on discute météo et voilà quoi.
Eh ben c'est très convivial. Et puis, bien sûr, les photos de la chasse sont déjà d'ailleurs disponibles sur le forum.
Oui, tout à fait. Les photos de la chasse et certaines vidéos sont disponibles sur ce forum. Je rajouterai aussi que ce forum appartient donc au site Infoclimat.
Voilà, infoclimat.fr. Je vous invite à visiter, bien sûr, pour retrouver plein d'informations.
Sur lequel on retrouve, pareil, beaucoup de renseignements concernant la météo, des photos, des observations et un grand nombre de données climatologiques. Également.
Voilà. Et d'ailleurs, au passage, on en profite pour signaler qu'il y a une association Infoclimat et que les passionnés qui nous écouteraient éventuellement peuvent rejoindre cette association.
Tout à fait. Également.
Alors, donc, on va juste avant de faire une petite pause, je voulais revenir un petit peu sur la tempête Joachim avec Saber. Parce que, bon, c'est vrai, on a parlé un petit peu de notre région. Hein, on nous écoute un petit peu dans la région, mais après tout, elle ne s'est pas arrêtée aux portes de la Loire-Atlantique. Là, elle a continué la tempête.
C'est vrai qu'à l'intérieur des terres, hein, quand elle s'est déplacée à l'est, hein, elle a un petit peu dégénéré quand même. Hein. On a pu enregistrer 139 km/h quand même à Clermont-Ferrand, chose qui est très très rare. Je crois qu'elle a battu son record, hein, je ne sais pas son précédent, mais là, ensuite sur les sommets vosgiens, ça a été plus de 180 km/h. Donc quand même, hein, c'était assez conséquent, surtout à l'intérieur des terres, hein, ça peut faire aussi des ravages d'autant plus importants. Donc elle a continué et puis elle s'est évacuée par l'Allemagne aussi.
L'Allemagne et la Suisse, et il y a eu pas mal de dégâts, mais quand même, il n'y a pas eu les dégâts qu'on a eu avec les tempêtes de 99,
non.
Par exemple.
Non, c'est pas du tout comparable.
Hein, Cyril ?
Au niveau du massif vosgien, la station, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, elle a enregistré 189 km/h, c'était plus qu'avec l'Octave en 99, mais c'était très localisé. Hein.
Voilà, donc ponctuellement de grosses rafales, quelques records qui sont tombés, mais d'un point de vue général, une tempête, une forte tempête classique d'hiver, comme on devrait, parce que ça fait quelques années qu'on n'en avait pas eu, mais comme on devrait en avoir chaque hiver.
Comme dans les années 90 en fait, hein. Et sauf que ça fait longtemps qu'on a pas d'hiver qui ressemble à ceux des années 90 quasiment chaque hiver il y avait des tempêtes.
Voilà.
Pas un défilé de tempêtes, mais bon, il y avait pas mal de tempêtes qui se produisaient l'hiver.
Justement, je vais revenir un petit peu sur ces tempêtes. Et Stanislas, est-ce que vous conservez des souvenirs de la tempête de 99,
hein? Oui, j'ai beaucoup de souvenirs, hein. Je pense que d'ailleurs, beaucoup de passionnés de météo, la passion de la météo a pris naissance en 1998 suite à ces tempêtes. Ça a été le cas pour beaucoup de passionnés. Et donc moi, en termes de souvenirs, bon, la tempête n'étant pas passée exactement sur Nantes, j'ai quand même souvenir de rafales qui ont atteint et voire dépassé les 120 km/h à Nantes et 140 km/h sur les côtes de Loire-Atlantique. Et ces vents n'étaient pas prévus aussi forts à l'époque. Et c'est là que je me suis dit que ça avait dû souffler vraiment très fort, très très fort en Normandie, région parisienne. C'est là que je me suis vraiment posé des questions.
Et Saber, est-ce que vous avez des souvenirs météorologiques un peu plus anciens ?
Oui, alors en 87 notamment, hein, en 1987, c'était assez particulier,
l'ouragan de 87.
Oui, voilà, exactement, ça a été vraiment, c'est là où on a dû enregistrer, je crois, 216 km/h dans le Cantentin, à la pointe de la Hague, il me semble.
Voilà, oui. Plus.
Et c'est vrai que ça m'avait vraiment, vraiment...
Oui, elle a marqué beaucoup de monde, cette tempête, cet ouragan de 1987 en Bretagne. essentiellement, puisque c'est la Bretagne qui a été traversée.
Moi, j'habitais au nord de la Loire-Atlantique à cette époque, donc c'est vrai que je me rappelle très très bien.
C'est l'événement marquant, hein, c'est un petit peu le repère, entre guillemets, pour comparer avec les autres tempêtes. Cyril, vous vous en souvenez? Vous étiez né, vous, Cyril, en 99?
Moi, je suis même né en 81, donc
voilà.
J'avais à peine la majorité à ce rôle-là.
Donc ça a dû vous marquer aussi?
Ça m'a marqué parce qu'à l'époque j'étais en région parisienne et puis la veille, bon, le bulletin de télé il prévoyait des rafales à 110-120 dans l'intérieur des terres. Et finalement c'était des rafales jusqu'à 150 qui ont été enregistrées dans la région parisienne avec un fameux 173 km/h. Au niveau de la tour Eiffel, enfin au niveau du premier étage, je crois, puis tout en haut, on avait enregistré jusqu'à 216. Donc
voilà. Et c'est ça qui a déclenché votre passion de la météo, ou c'était venu déjà avant?
Déjà un petit peu avant, quoi, parce qu'il y avait des orages, un orage particulièrement violent en région parisienne à la fin mai 99, et qui a été l'élément le plus déclencheur qui m'a permis de créer un des premiers sites météo de l'époque.
Voilà, déjà, donc oui, puisque 99, c'était le début, on va dire, d'Internet, hein, du développement d'Internet à partir des années 2000. On va conclure dans quelques minutes avec nos invités, on va faire une petite pause musicale. Je rappelle qu'en juste après la météo et le flash à 14h, on sera en direct avec Patrick pour les dernières informations. Les derniers bons tuyaux pour les courses du week-end, c'est la rubrique que vous avez désormais l'habitude d'écouter, qu'on est les seuls sur Sun à vous proposer une heure avant le départ du Quintet. La musique, c'est The Police, Synchronicity, et on se revient juste après pour conclure avec nos invités.
Planet Sun, en direct jusqu'à 14h. We'll be right back.
et The Police, Synchronicity 2, c'était le dernier titre que je vous proposais dans ce Planet Sun consacré, vous l'avez compris, à la tempête Joachim. Cette émission, vous pourrez bien sûr la réécouter, l'écouter autant que fois vous voulez en podcast sur le site de la radio, le www.lesonunique.com. Alors nous étions aujourd'hui en compagnie de Saber du musée de la foudre qui rouvre donc du 1er avril au
30 septembre.
Au 30 septembre, si vous faites un tour dans le Cantal, vous pourrez aller le visiter et Saber vous recevra bien sûr avec plaisir et vous donnera toutes les explications. Cyril était également avec nous du site www.meteolaflèche.com, donc sur lequel vous pouvez portail d'informations complet sur la météorologie, sur lequel vous pouvez retrouver toutes les informations. Enfin, Stanislas nous a fait le plaisir également de participer à cette émission. Stanislas qui a sa propre station météo bientôt sur le net, allez, c'est promis. Et bien sûr que vous pouvez retrouver sur le site InfoClimat dont l'adresse est
www.infoclimat.fr.
Voilà, c'est noté. Merci à nos invités d'être passés aujourd'hui dans ce Planet Sun. La semaine prochaine, je vous l'ai dit, on retrouvera une émission consacrée au réveillon de Noël et à la Saint-Sylvestre. Je vous retrouve comme d'habitude juste après le flash, enfin juste après la météo et le flash en compagnie de Patrick pour les courses du week-end. Très bonne fin de journée à tous. En attendant, il est pile 14h.
14h. Le flash, Marc Salbert.
Bonjour, la grève des agents de sûreté aéroportuaire. Des retards sont à prévoir cet après-midi à Roissy, mais c'est surtout l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry qui est touché avec l'annulation de tous les vols jusqu'à 14h. Ensuite, un départ sur deux devrait être assuré. Reprise ce matin des opérations de pompage du fioul du cargo maltais échoué sur une plage du Morbihan après le passage de la tempête Joachim. Par ailleurs, le réseau ERDF promet un retour à la normale ce soir pour les clients privés d'électricité. Il y en